Henri Barbusse, l'histoire merveilleuse. Elle commence mal, votre histoire merveilleuse, me dit Chalinet. En effet, répondis-je. Je disais donc qu'un soir, la frère Bianca tomba en pleurant dans les bras de la vieille Tita, sa mère. Et la vieille Italienne baissa son lamentable visage couleur de boue et se mit de même à pleurer. Cette scène que l'ombre du soir vint cacher se passait dans un faubourg populeux de Naples, suggéra Chalinet. Non, au fond d'une ville australienne, une de ces grandes villes neuves où s'étaient abattues des nuées de chercheurs d'or. Un Italien y vint naguère, traînant sa famille. Il s'installa dans une maigre maison aux blancheurs osseuses dont le propriétaire, un mineur, venait de mourir d'accident. Or, l'émigrant mourut, lui aussi, mais de fatigue et de malchance, laissant une fille, Bianca, et un fils, Biaché, autour d'une veuve famélique à face minée et ruinée. Au temps du père, on n'avait pas pu découvrir de l'or, mais après lui, on n'avait guère pu découvrir du pain. Quel secours pour la nichée étrangère! Dans la grande rue où elle se trouvait, comme dans la grande ville où se trouvait la rue, comme dans le grand monde où tout se trouve, chacun pensait à soi. Si les mineurs étaient indifférents, les fournisseurs, eux, étaient méchants, et ils en vinrent à parler de faire vendre la maison. Le coup de mort pour ceux qui végétaient encore. C'est le soir où il en fut question que la mère, que l'âge avait rendue laide comme une sorcière, et la fille, dont la jeunesse se mettait à lui ressembler en se flétrissant, pleurèrent en se tenant embrassées comme deux sœurs, comme la misère et la douleur. Or, on vit apparaître dans la pénombre une menue face blême, Biachée. Ayant tout compris, il murmura « Et si on vendait mes statues ?» Malgré ses 20 ans, Biaché était si malingre qu'on eût dit un enfant étrange. Il n'était bon à rien, avec des cannes de toux qu'il secouait longuement, avec sa figure blanche sur laquelle les paupières et les pommettes descendaient, dessinaient 4 ronds rougeâtres. Mais il s'adonnait à sculpter des statuettes, une flamme magnifique aux yeux. Tout enfant, là-bas, il s'était mis à adorer les statues des musées et à rêver de les imiter. Sa vocation s'emparait de lui impérialement parmi les humbles besognes quotidiennes. Il vivait ébloui par la splendeur des chefs-d'œuvre possibles. Vendre ses statuettes, c'était pour lui une épreuve émouvante, car il avait jusque-là caché ce qu'il créait, bien qu'il portât au fond du cœur une certitude illuminée. Ah ah, sourit Charline, l'histoire merveilleuse, je vous y vois venir avec vos gros sabots. La capitale décision du jeune artiste se réduisait aux yeux de sa mère et de sa sœur à une bien vaine tentative. Comment admettre que ces espèces de jouets de pierre qu'il accomplissait sans maître, et avec joie, puissent rapporter de vrai argent? Pourtant, la vieille Tita croyait obscurément qu'il faut toujours tenter une chance qui a l'air de s'offrir. Le lendemain, elle mit donc docilement des statuettes dans son tablier, et s'en fut les présenter en un baragouin farouche obséquieux aux gentlemen oisifs et aux dames luxueuses des plus belles maisons de la cité. Les personnes examinèrent les œuvres et toutes successivement firent la grimace et déclarèrent que c'était horrible. Les imbéciles, gronda Charlie. Non, non, dis-je, ils avaient raison. Le culte de l'art n'implique pas fatalement le talent. Le petit Biachet avait beau adorer la sculpture, il n'était qu'un piètre sculpteur. Tita jugea inutile, après ce verdict de riches amateurs, de proposer les statues aux marchands d'objets d'art. Elle dut les cacher dans le haillon de son habit et s'en revenir en baissant très bas son pauvre profil d'aigre domestique. Biachet l'attendait avec une telle interrogation dans l'œil qu'elle perdit contenance devant lui, bien qu'elle fût sa mère, et bégaya des phrases vagues. Ces messieurs avaient dit qu'ils réfléchiraient, mais le marchand n'était justement pas là. J'irai chez lui, moi, déclara Biachet, que la réponse maternelle, pour piteuse qu'elle fût, remplie d'un espoir infini. Chargé en boîtier de 3 statues en pierre brillante, les dernières faites, il paraît, tit chez le marchand. Les deux femmes auraient bien voulu le dissuader de courir un effroyable échec. Elles essayèrent de trouver pour cela des moyens, des paroles. Mais elles étaient si pauvres, si ignorantes, qu'elles ne le purent pas. Non, en vérité, elles ne le purent pas. Alors elles le regardèrent partir, et lorsqu'il eut disparu, elles se regardèrent l'une l'autre avec le même silence profond. Le marchand, un ancien mineur, grommela d'abord, puis, curieux de son état, saisit les statuettes, les soupesa, non sans un mouvement de surprise, et les porta tout près de son gros œil de faïence peinte. Il fit en considérant à la dérobée le chétif visiteur au sourire de mendiant. Puis il jura ses grands dieux qu'il ne tenait pas à ces objets, mais pas du tout, bien qu'ils fussent fort habilement exécutés. Enfin, après d'autres tergiversations, il offrit 1 livre comptant de chaque statue. Biache, émerveillé, battit des mains. Et non seulement il riait, mais le marchand le paya sur l'heure. Puis il l'invita à s'asseoir, s'informa de sa santé et même lui demanda où il avait trouvé la substance dans laquelle il avait sculpté ses jolies statues. Biachet, confondu de tant d'empressement, balbutia que c'était en un monceau de pierres brillantes qu'il avait découvert au fond de leur cave sous la dernière couche de charbon. Sans doute ces pierres avaient été jetées là par le mineur qui le précédait et qui s'était noyé. Alors, ne voilà-t-il pas que le marchand chargea Biachet de faire des statues pareilles, toutes pareilles, lui demandant de ne les montrer à personne qu'à lui promettant de les lui acheter toutes, 1 livre chaque, tant il les trouvait bien faites. Et le soir, il y eut dans la maison maudite une scène miraculeuse. 3 pièces d'or luisaient en réalité sur la table. Et autour, le petit Biachet rayonnait glorieux, se sentant consacré aux yeux des hommes, enivré de son talent, de son génie. Les deux femmes rayonnaient aussi, parées du jour et toutes chargées. Par ailleurs, le marchand ne rayonnait pas moins en songeant qu'il allait empiler dans son armoire des blocs de minerai d'or qui ne lui coûteraient qu'une livre pièce. Oh, sacrebleu, dit Charlie, mais après. Cette histoire merveilleuse durera assez longtemps pour que la famille, jusque-là si malmenée par le sort, fut tout à fait délivrée. La frêle Bianca épousa, grâce à sa petite dot, un solide mineur capable de lutter pour plusieurs contre les embûches de l'avenir. Bien plus, l'aventure féerique ne dura pas assez longtemps pour que le petit sculpteur s'aperçût du subterfuge de la destinée à son égard. Il fut lui aussi sauvé du terrible avenir. Il mourut un soir d'avril, ou plutôt il s'endormit au premier couchant tiède. Il ferma les yeux, radieusement fier de lui-même, et tout souriant à l'idée qu'il se réveillerait le lendemain dans le printemps, aurore de la douce année et de la douce gloire, dans le printemps comme dans un paradis. Henri Barbusse.